comment le peuple souverain a-t-il été inventé en 1789 ? Le mot « peuple » s'est imposé comme le mot-clé de la Révolution de 1789. Mais une question fondamentale a surgi dès ce moment-là, qui est toujours au centre de notre vie politique. Comment peut-on représenter le peuple ? À la différence des Anglais ou des Américains, les Français se sont passionnés pour le problème de la représentation du peuple, car la Révolution a provoqué la destruction brutale des cadres politiques antérieurs. À partir du moment où le peuple a hérité du pouvoir souverain que détenait auparavant le roi, une question centrale s'est imposée dans le débat politique franco-français. Comment peut-on s'exprimer au nom d'un peuple auquel on commande en même temps qu'on lui doit son existence? À partir de 1789, les élites révolutionnaires ont tenté de répondre à cette question pour légitimer leur propre pouvoir en tant que porte-parole censé représenter le peuple français. Le 17 juin 1789, le coup de génie de l'abbé Sieyès, l'auteur de la fameuse brochure « Qu'est-ce que le tiers-état ?», fut de faire adopter par les élus du tiers une décision qui les transforma en représentants de l'Assemblée nationale. Sieyès enfonça le clou dans son discours du 7 septembre 1789 en affirmant que la nation, terme qui à l'époque était synonyme de peuple, que la nation ne pourrait désormais parler que par la voix de cette assemblée. La définition du peuple comme entité au nom de laquelle on peut parler et agir a donc été inventée à ce moment-là par les représentants du tiers-état pour légitimer leurs fonctions. Cette stratégie a été confortée par un second coup de force quand l'Assemblée nationale a prétendu qu'elle avait le pouvoir de rédiger une constitution, alors qu'elle n'avait nullement été convoquée dans ce but par Louis XVI. Les représentants du tiers-état se sont alors transformés en assemblée constituante, agissant au nom du peuple souverain. Mais à partir de l'été 1789, cette définition de la représentation du peuple a été contestée par les éléments les plus radicaux du mouvement révolutionnaire. Deux interrogations ont alors surgi dans l'espace public. Premièrement, si le peuple est véritablement le souverain, pourquoi est-il gouverné ? Deuxièmement, si la loi est l'expression de la volonté générale, comment peut-on recueillir cette volonté ? Ces interrogations ont débouché sur une question encore plus vertigineuse. Quel est ce peuple dont il faut désormais se recommander pour exercer le pouvoir d'État ? Les affrontements sur ce sujet ont opposé ceux qui se référaient au peuple symbolique, comme instance représentée dans l'Assemblée selon la doctrine de Sieyès, et ceux qui parlaient au nom du peuple empirique, composé des citoyens qui se réunissaient dans les clubs ou dans les sections des sans-culottes et qui manifestaient dans la rue. Les journées révolutionnaires du 10 août 1792 ou celles qui se succédèrent du 31 mai au 2 juin 1793 portèrent au paroxysme cette contradiction. Elle opposa les députés modérés, qu'on appelait les Girondins, partisans de la démocratie représentative, aux Jacobins, qui prônaient la démocratie directe. Ainsi est né un clivage entre deux définitions du peuple qui n'a cessé de se reproduire jusqu'aujourd'hui.